RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, les 42 élus du rugby français ont quitté leur club pour rejoindre le Saint des Saints, considéré comme une prison par certains, surnommé Marcatraz. Le centre national du rugby de Marcoussis est aussi un paradis pour ceux qui rêvent de porter le maillot bleu frappé du coq. Et c'est en bordure de ce petit village de l'Essonne que Fabien Gatier et son staff vont donc préparer les bleus pour l'un des derniers grands rendez-vous avant la Coupe du Monde dans moins d'un an, la tournée de novembre qui porte désormais un nom britannique plus ronflant. Ça s'appelle l'Autumn National Series, ça fait plus classe quand c'est dit en anglais. Trois matchs au programme pour les Bleus ce mois de novembre. L'Australie au Stade de France le 5, l'Afrique du Sud à Marseille le 12 et le Japon le 20 à Toulouse, un match qui aura lieu l'après-midi. L'objectif, c'est évidemment de pousser toujours plus loin la série d'invincibilité du 15 de France, rendue actuellement à 10 victoires consécutives, un succès face à l'Australie et le record absolu sera battu. On a hâte. Hâte de vibrer à nouveau aux exploits de nos bleus comme on le fait depuis plus d'un an maintenant.
Et victoire 37 à 10 de l'équipe de France pour cette ouverture du tournoi. L'équipe de France prend le bonus offensif face à l'Italie. Oui, la France est en tête, Christophe, du tournoi destination. Voilà. Oui, victoire de l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France. La deuxième dans ce tournoi. Victoire 30 à 24. La France prend la tête du tournoi destination. Ouh. Elle est seule en tête ce soir.
Quelle émotion. C'est fini.
Et c'est terminé. Troisième victoire en trois matchs pour l'équipe de France après l'Italie, après l'Irlande, au Stade de France. Et bien ici à Murrayfield, les Français s'imposent 36 à 17. La France plus que jamais en tête du tournoi destination. C'est terminé. La victoire de l'équipe de France. 13 à 9. La quatrième victoire en quatre matchs dans ce tournoi destination. Quel combat de boxe ce soir à Cardiff. 4, 3, 2, 1. C'est voilà, fini. 80e minute. L'introduction pour Maxime Lucu.
Alfred
qui dégage. La France a gagné. La France a remporté le tournoi destination. Après Christian Carrère, après Jean-Pierre Rive, après Jacques Fourou, après Daniel Dubroca, Benazi, Bagnès Pelouse, Galtier du Sautoir. Eh bien, Antoine Dupont va soulever le trophée pour le 10e grand chelem français. La France a remporté le tournoi destination 2022.
Et avant ce tournoi destination, il y avait eu aussi cette tournée incroyable et la victoire. On a encore tous des étoiles dans les yeux, la victoire face aux All Blacks au Stade de France. Les All Blacks qui ne seront pas là cette année, en tous les cas pas en France. Pour évoquer cette tournée qui approche, les poteaux du jour sont évidemment Denis Charvet. Salut mon Denis.
Bonjour messieurs.
Accompagné de notre Jeff Patureau, notre responsable quand même. Comment tu l'appelles déjà
Chef Chaudard.
Chef Chaudard, notre chef Chaudard à nous.
Bonjour à tous.
Salut Jeff. Ouais. Et Manu Massica. Le patron de Midi Olympique est également avec nous. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est la grande journée de Midol.
C'est Hollywood.
Oscar, c'est Hollywood. Il a mis son nœud papillon. Il a des paillettes plein les cheveux. Ça va, Manu? T'es prêt pour ta grande soirée?
Ouais, salut les amis. J'ai déjà mis des souliers vernis, du gel, le pape. Tout est prêt pour vivre une belle soirée.
Eh ben écoute, on va se régaler. Et évidemment, tu peux nous donner le nom de l'Oscar Midi Olympique de l'année. Tu peux le donner ou
n'entends rien.
Tu n'entends rien. C'est comme Denis Charvet, par exemple, qui ne peut pas encore nous donner le nom du capitaine des Barbarians.
Non.
Tu ne peux pas le donner. Mais
non, même pas Midi Olympique. Non.
Bon, ok, même pas Midi Olympique, même pas.
Mais c'est du lourd.
D'accord, c'est du lourd. Ok.
Merci
les garçons pour nous filer des infos
bonne journée.
Dans votre podcast préféré. On vous remercie. Heureusement que vous êtes bien payés. Très bien. Nous sommes donc.
Moi, si tu veux, je peux te dire que ce soir, il y a Richie Macko, David Kirk, Sia Colissi, Nick Farr-Jones, Martin Johnson, John Smith,
Pinard.
J'en oublie.
Tous les capitaines champions du monde
de l'histoire du rugby mondial seront présents aux Oscars Midi Olympiques.
Et dis-moi, l'année prochaine, il y aura peut-être Antoine Dupont alors. Et
dis-moi, comment tu les as payés? Parce qu'ils viennent de loin quand même.
Savoir.
Monsieur, j'ai travaillé, il y a des sponsors, voilà. On a fait des choses bien et ils sont tous là. On a passé une partie de la soirée hier soir avec eux et une partie de la journée. Je peux vous dire que c'est un grand, grand moment de rugby qu'on va partager
et
avec les
deux. Grâce à Midi Olympique.
Oui, ouais, voilà, c'est ça, on va en profiter un petit peu. Ça va être un formidable moment.
Et bah, profitez bien de cette belle et grande soirée donc, des Oscars Midi Olympique. On va, messieurs, nous se concentrer donc, sur la tournée du 15 de France. Est-ce que, comme moi, vous êtes un peu en manque, là? En manque de bleu, en manque de...
Ça va arriver vite, hein, quand
même. Ah oui, d'accord, oui, mais bon...
Oui, en manque, oui, on manque de s'étaler contre les Sud-Africains, surtout.
Ah oui?
J'ai envie de savoir ce qu'on veut face au meilleur.
Ce qu'on veut, tu veux dire.
Ce qu'on veut, pardon.
Ouais. Ce qu'on veut, c'est les débattre.
Ouais, ce qu'on veut aussi, c'est valable aussi.
Oui, ça marche aussi. Non, mais il me tarde d'être... à Marseille, il y aura un match important au Stade de France.
Contre l'Australie, oui.
Contre l'Australie, quand même. Mais voilà, donc, c'est une tournée passionnante.
Ouais, c'est vrai que les Australiens... Alors, aujourd'hui, tout le monde a en tête ce France-Afrique du Sud, Jeff. Mais bon, attention, l'Australie, c'est une grande nation du Sud.
L'Australie, c'est
une
la dernière équipe
double qui nous a battu. Championne du monde, quand même.
Hein. La dernière équipe qui nous a battu, l'Australie, c'était lors de la tournée avec une équipe remaniée. C'est vrai que les Australiens font moins peur sur le papier que les Sud-Africains, mais ça va être deux matchs très intéressants. Après, il restera le Japon dans un autre style de jeu. C'est sûr que le contraste entre l'Afrique du Sud et le Japon en deux semaines, en une semaine, ça va être brutal. D'abord, la brutalité sud-africaine et après, un peu plus de jeu contre le Japon. Mais cette tournée, elle va être riche en enseignements. Ouais.
Enfin, attention, hein, la dernière fois que le Japon est venu en France en tournée, il y a quelques années, c'était Guy Novet, je crois, le sélectionneur.
C'était son dernier match.
23-23, où ?
Paris La Défense Arena.
Ah, bravo. Ouais. Monsieur connaît ses classiques.
Donc si on pouvait éviter de reproduire ce genre de blagues, ce serait quand même pas mal. Est-ce que vous pensez que, Manu, est-ce que tu penses que l'équipe de France, que les joueurs du 15 de France sont dans le même état d'esprit que l'an dernier, là où ils avaient renversé la montagne All Black, ou est-ce qu'on est déjà, est-ce qu'on voit déjà un peu plus loin la Coupe du Monde l'année prochaine ?
Moi, j'ai aucun doute que cette équipe, telle qu'elle est construite et que, avec tout ce qu'elle nous a montré depuis le début de l'aventure, va aborder cette tournée d'automne comme simplement des matchs de préparation et comme les derniers matchs qu'elle a joués. Évidemment que tout le monde pense à la Coupe du Monde, mais je pense pas que les Bleus soient déjà focus sur la Coupe du Monde au point d'oublier qu'il y a ces trois tests importants, plus la tournée, le tournoi à destination pardon, qui sera également déterminant. Non, chaque chose en son temps, match après match. Je vais faire le joueur, on travaille et puis on va gagner et puis voilà quoi. Non, blague à part, cette équipe elle a pas fait tout ça pour s'oublier en chemin à un an d'événement. Et je la pense assez mature pour maîtriser le contexte et ne pas subir la pression qui laisserait déjouer trop tôt.
Très bien. Ce qui est important, c'est que l'ossature soit là. C'est-à-dire que les leaders de jeu sont là, qu'il manque... Alors, il y a des blessés, évidemment.
On va y revenir dans un instant.
On va y revenir, mais bon, ils se connaissent parfaitement. Il y a un état d'esprit remarquable. Je crois que les automatismes vont revenir d'un coup.
Oui, et puis c'est important de marquer son territoire aussi.
Parce
que
les cadres de l'équipe de France ne se sont plus vus ensemble, n'ont plus joué ensemble depuis le mois de mars.
Non, parce que la tournée estivale au Japon, il n'y avait pas les finalistes. Ouais. Il y avait pas mal de joueurs de cadre, dont Antoine Dupont qui était au repos. Et c'est vrai que la vraie équipe de France, entre guillemets, sans manquer de respect à ceux qui ont fait la tournée au Japon. La dernière
l'équipe
fois
de France Premium.
C'est ça, Premium. Oui, je rentre pas trop dans le vocabulaire de Fabien Galtier, c'est compliqué. C'était pour le match contre l'Angleterre et le Grand Chelem au mois de mars. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie impatience et tout le monde a envie de se retrouver, de se remettre en route, ce qui est le cas depuis quelques heures. Oui.
Alors une équipe de France qui, comme son homologue du football, n'est pas épargnée par les blessures. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ça tombe un peu comme un gravelotte, Jeff, avec encore beaucoup de forfaits ce week-end.
Vous avez 10 minutes là, parce que la liste elle est un peu longue. On va commencer par ceux, les forfaits qui étaient déjà entérinés. Le premier qui était blessé, c'est Cyril Bailly, le pilier gauche du Stade Toulousain, qui peut-être va revenir en cours de route, on ne sait pas, on l'espère. Le troisième ligne, là aussi Toulousain, François Cross. Le pilier droit, Lionel Mbamba. Le centre de Montpellier, Arthur Vincent, qui a rechuté malheureusement au genou. L'ailier du RCT, Gabin Villiers. L'arrière de Toulouse, Melvin Jaminet. Le troisième ligne du Racing, Ibrahim Diallo, qui a été opéré de l'appendicite. Le troisième ligne du Pau, Jordan Joseph. Tout ça, c'était avant ce week-end. Et la huitième journée, malheureusement, a confirmé les craintes du staff, puisque le deuxième ligne de Montpellier, Florian Vérag, lui, a été touché aux adducteurs samedi contre le Racing, forfait. L'arrière de l'UBB, Romain Buros, touché à une cuisse contre Clermont, forfait. Et le poste de pilier gauche, ça c'est vraiment embêtant, puisque Jean-Baptiste Gros, lui, s'est pas raté avec une fracture du poignet contre Castres à domicile. C'était à Mayol samedi soir. Ça, c'était le vrai coup dur. Et un autre forfait, là, c'est pas vraiment sur blessure, c'est même pas sur blessure, puisque c'est Reda Wardy, le pilier de La Rochelle, qui a pris un carton rouge. Et ça fait vraiment mal pour lui. Première fois qu'il a allait rejoindre Marcoussi. Il avait une chance de débuter, en tout cas d'être sur le banc, mais de jouer ce premier match contre l'Australie. Il ne sera pas là. Et ça, ça fait évidemment un remaniement qui n'était pas attendu.
Surtout dans les conditions où il y a ce carton rouge, même s'il y est, qu'il soit logique, c'est dur. C'est dur parce qu'il n'est pas là pour faire mal à Antoine Dupont. On le voit sur les images. Et ça le pénalise énormément.
Ah oui, mais bon, comme ça pénalise tout le monde, évidemment.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est regrettable parce que ce garçon mérite.
C'est regrettable. Et je pense notamment à Jean-Baptiste Gros aussi, hein, qui lui avait quand même une fenêtre et une carte à jouer en l'absence, évidemment, de Cyril Bailly. Et là, une nouvelle fois, ça se dérobe sous ses pieds, Manu. C'est quand même très dur pour lui comme pour les autres, mais peut-être encore un peu plus pour lui, non ?
Ouais, parce que lui, il compte pour un. Tu as raison. C'est aujourd'hui. C'est l'équivalent, c'est peut-être pas l'équivalent de Cyril Bailly encore, mais il est pas loin et on le voit bien, il partage quasiment le temps avec Cyril et c'est un joueur qui est un bon pilier de mêlée, un joueur avec une très très grosse activité offensive et défensive, donc un joueur qui porte énormément d'espoir au niveau du staff. Donc oui, c'est le coup est véritablement très très dur pour lui, cette blessure elle tombe au mauvais moment. Et il doit avoir sacrément les boules.
Oui, évidemment. Tu voulais ajouter un mot, non ?
Non, pour celui qui risque de jouer, je voulais pas.
Alors voilà, alors justement, parce que là, donc plus de Bailly, plus de Gros, plus de Wardy, il nous reste qui ? Priso quand même.
Priso qui va être titulaire normalement, parce que je vois pas comment.
Sinon, il y a Clément Cassette qui a été appelé hier, mais c'est vrai que.
Jérôme Rey qui a été appelé.
Priso a déjà joué. Et puis, il a fait d'énormes progrès. Je trouve que son changement de club.
Ce garçon qui était monté au NU et ensuite.
Oui, mais il est parti à Toulon pour se remettre en question, non ? C'est ça, Manu, je crois. Et donc, ça lui réussit plutôt bien et ses performances l'ont fait sélectionner. Donc voilà, on attend beaucoup ce garçon. Ça risque d'être une révélation aussi. On ne sait jamais.
On connaît son niveau hein, et on l'a vu jouer. On l'a vu jouer en équipe de France. On l'a vu jouer à La Rochelle et à Toulon cette année. On sait que ce garçon a un fort potentiel, une très belle activité physique. Au niveau international, il ne s'est jamais jusqu'à maintenant imposé. Aujourd'hui, il a la place est libre, le champ est libre, l'horizon est dégagé pour lui. S'il est titularisé, c'est à lui de saisir sa chance. Et c'est un joueur dont on pensait qu'il pouvait être loin au départ du monde à Galtier pour la Coupe du Monde. Finalement, il est dans la course. Hein. Les aléas de l'histoire font qu'il est aujourd'hui dans la course, c'est à lui de saisir sa chance.
Ouais, et c'est vrai que par rapport à ce que dit Manu, c'est que Dany Priso avait été appelé la dernière fois, c'était en 2019, c'était un autre mandat, il est revenu pour la tournée au Japon, il a 16 sélections au total, il s'est un peu relancé cet été, mais là il a une occasion en or de montrer qu'il est toujours dans le coup à moins d'un an de la Coupe du Monde.
Ouais, pour tous ces joueurs justement qui remplacent des joueurs blessés, c'est une magnifique fenêtre de tir pour eux, pour essayer de montrer ce dont ils sont capables et pour essayer
de... En plus de mêlée, il n'y aura pas de problème, il a quand même, il est très solide. Après, c'est dans se fondre dans le collectif. On attend de lui de faire ce que fait Bailly à tous les matchs. Ouais. Mais bon, ce sera un joueur intéressant à voir durant cette tournée.
Alors, le reste de la première ligne, a priori, on va s'amuser hein, quand même à essayer de composer cette équipe, même s'il reste
encore
pas mal de temps avant l'Australie, qu'il y a encore des blessures possibles, même s'il n'y aura plus de matchs en club pour tous ces joueurs qui sont bloqués à Marcatra.
Attends, pas sur les 42. Hein.
Pas les 42, oui.
Il y en a qui vont rentrer en club et qui vont avoir du temps de jeu. On ne sait pas si Romain Ntamack va rentrer ou pas, justement, pour se dégourdir un peu les jambes, parce que lui, il n'a pas joué depuis le 11 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et certains vont rentrer. Ce ne sera pas sûr que ce soit tout à fait les mêmes 14, je ne sais plus combien c'est maintenant dans la convention, 14 ou 19 qui vont revenir exactement, puisqu'il peut y avoir du changement, peut-être que certains vont se blesser, peut-être les 42 ne seront peut-être pas les mêmes la semaine prochaine.
Là, il y en a 42, il y en a combien qui vont rentrer dans leur club ?
Il me semblait que c'était 14, mais dans le milieu olympique, j'ai lu que c'était 19.
Ah, on va demander au patron, justement, il doit savoir, lui.
On a toujours raison.
D'accord, bon. Petite incertitude.
Je pense que c'est 14.
Mais il y en a quand même quelques-uns qui vont rester à Marcoussi quand même cette semaine. Ah oui, vous me rassurez.
Oui.
Très bien. Alors, on s'amuse quand même à composer cette équipe. Hein.
Allez.
De savoir. Donc, on a vu en pilier, donc a priori,
talonnage, on ne sait qui.
Au talonnage,
Julien Marchand avec Movacar en place.
Le duo Marchand-Movacar.
Ça bougera pas.
On ne sait pas dans quel sens. Ça peut être.
Je pense
Marchand titulaire et Movacar en.
La logique, oui, c'est ça.
Il y a une logique aujourd'hui depuis un petit moment.
Mais la logique avait été...
Non, elle a été modifiée parce que Marchand s'est blessé l'automne dernier et qu'il a joué...
C'est ça que Movacar est titulaire contre la Nouvelle-Zélande.
Voilà. Très bien. Donc Movacar qui entrerait en cours de jeu, Marchand est titulaire. Et de l'autre côté, à droite,
Antonio.
Antonio indétrônable aujourd'hui avec la concurrence d'Awas derrière, donc quand même.
Il y a en pièce de pilier droit, il y a Antonio, Falatea, Awas et Laclaya.
Oui, mais Awas, je pense qu'il est des secondes. Hein. Donc il va y avoir une concurrence entre Antonio et Awas. Même si
avantage
je pense.
Aujourd'hui à Antonio.
Oui, voilà, ouais, avec un avantage certain pour Antonio.
Ok, donc première ligne, Priso, Marchand, Antonio. Deuxième ligne, là aussi, il n'y a pas de blessé a priori. Mais il y a des garçons, enfin, je ne sais pas ce que
vous dites. Il y en a un surtout qui
est... Il y a Woki et Willemse. Willemse qui revient de blessure, ouais, qui n'a peut-être pas encore retrouvé tout son niveau. Et puis, il y en a un autre qui n'est pas non plus à son niveau. C'est Cameron Woki, qui, on le sait, a changé de club à l'intersaison, quittant Bordeaux pour le Racing. Bon, effectivement, ce sont deux garçons qui sont en état de jouer, mais est-ce que...
La concurrence avec Flamand.
Les meilleures deuxième ligne de France.
Il y a Flamand, Gérassi est revenu, il me semble. Hein.
Oui. Donc, Flamand, Gérassi, Romain Tao, Joël Metz, Woki, Willemse.
Il y a Romain Tao aussi. Je ne sais pas. Oui, Woki, ça sera une vraie question. Et quand on connaît Fabien Galthié, je pense que les entraînements donneront des réponses. Donc,
Si on est dans la tête de Fabien Galthié, si on est logique par rapport à tout ce qu'il fait depuis le début de son mandat, c'est quand même priorité à la continuité et on peut imaginer qu'il va pas essayer de réinventer la lune, qu'il va essayer de rester sur son ossature traditionnelle avec Woki Willemse, les deux W, mais moi j'ai tendance à voter ça.
Oui, mais après je suis totalement d'accord avec toi, mais avec une possibilité de remplacer Woki par Flamand.
Oui, mais ça fait. S'il reste fidèle à lui-même, Fabien aime bien avoir son équipe. Et même s'il y a des joueurs qui montrent le bout de leur nez, là, tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas vu cette équipe majeure depuis le tournoi à destination. Je pense qu'il voudra lui redonner du temps de jeu et les tester, quitte à faire rentrer Flamand ou essayer un autre Gérassi plus tard. Et je pense que pour commencer, il aura besoin de cet appel.
Il faut rappeler que pour Gérassi, Fabien Galthié avait dit quelques semaines avant le tournoi d'assignation, lors du dernier tournoi d'assignation, si Gérassi avait été là, il aurait été titulaire.
Oui. Mais bon, il a loupé le train.
Gérassi avait été blessé à cette époque-là.
C'est ça.
Et oui. Voilà. Mais après, c'est marrant parce que quand tu parles de Fabien Galthié, ça me rappelle quand même des entraîneurs comme Jacques Fouroux ou Bernard Laporte qui ont toujours quand même gardé leur ossature,
leur joueur.
Même blessé, ils les reprenaient et ils les faisaient jouer.
Oui.
C'est un peu le...
Rappelez-vous, depuis le début de son mandat, Fabien a compté les matchs. Et il a dit, je vais arriver avec tant de matchs, tant d'expérience, tant de sélections, tant de repères collectifs. Et ben voilà, chaque sélection compte. C'est ça qu'il nous a dit Fabien depuis le début. Ouais. Et même quand les joueurs étaient pas blessés, mais peut-être un peu en dedans, il a joué la continuité.
Ok, donc a priori, Woki et Willemse qui devraient être alignés en titulaire avec Flamand qui postule lui aussi et qui entrera sans doute en cours de jeu. On va passer à la troisième ligne maintenant, avec là aussi deux garçons incontournables, Jelonché et Aldrit. Hein, Aldrit qui est un garçon, on parle beaucoup de Dupont, mais Aldrit est un énorme joueur de rugby.
Il mériterait
un petit Oscar midi olympique de l'année, moi je l'aurais bien donné à lui.
Il paraît qu'il sera la soirée.
Ah, il sera la soirée, bon, je sais pas. On verra.
Il paraît qu'il serait pas loin d'avoir un prix.
Il est pas loin. On m'a dit qu'il serait pas loin. Il est pas Young Gabriel.
Et donc il reste une place. Donc troisième ligne, évidemment, la blessure de François Causse. Voilà donc le retour. A priori, le retour annoncé de l'ancien capitaine du 15 de France. Peut-être toujours capitaine. C'est non jamais.
Il a fait son retour déjà. Hein.
Oui. Mais là, dans l'équipe premium, là, c'est
pas pareil. Je pense qu'il va jouer.
Ouais. Alors. Tu penses qu'il va jouer ?
Mais c'est ce que je vais dans la continuité de ce que vient de dire Manu. Voilà, donc puis il n'y a pas de raison qu'il ne le titularise pas dans la mesure où il est bien revenu en forme. Il n'est peut-être pas à sa meilleure forme comme on l'a connu auparavant, mais en tout cas, il a prouvé qu'il peut être, il peut apporter un plus à l'équipe de France.
Et c'est un moment important pour lui, Jeff, parce que évidemment, François Cros est affirmé. Là, il est blessé, mais c'est un garçon qui est vraiment quasiment devenu indispensable au 15 de France. Olivon doit montrer de quoi il est capable s'il veut retrouver sa place de titulaire.
C'était le débat qu'il y avait encore il y a quelques mois. Moi, pendant le tournoi d'assignation, c'était est-ce que Charles Olivon, lorsqu'il reviendra, pourra être titulaire ou pas. Mais déjà, il faut regagner une place de titulaire, en fait.
Il sera capitaine et ensuite, est-ce qu'il...
Non,
il
sera titulaire, après capitaine.
Mais titulaire, il a une belle occasion aussi de montrer.
Mais là, il profite des blessures. Hein,
C'est souvent la vie. C'est la vie de.
Oui, c'est la vie de. Mais on l'a dit à Gérassi tout à l'heure.
Mais il a une vraie occasion et c'est vrai que la priori, sur le papier, on attend de voir les entraînements de la semaine, les entraînements haute intensité qui changent beaucoup de choses parfois dans la tête du staff. Et ça devrait être Jelonge, Aldrit et Olivon.
Et donc Charles Olivon.
Vous dites capitaine, non, mais à l'heure où on enregistre ce podcast, la décision du 15 de France n'a pas été encore communiquée, si je ne m'abuse.
Oui,
non. Ça va pas tarder.
Tu crois que ça...
Et toi, t'as des infos.
T'as des infos, là. Tu nous mets le doute exprès pour mettre du suspense.
Dis-nous tout.
Non, je n'ai pas d'infos. Je pense, comme vous tous, que ça sera Fabien Antoine Dupont. Mais ça n'a pas encore été officiel.
Oui, officiellement, non. Tu as raison. Mais c'est pas sorti.
C'était dans les discussions du staff depuis quelques semaines.
Oui, il y a 9 chances, voire 10 chances sur 10 que ce soit Antoine Dupont. Et puis ça serait logique. En même temps, ça serait logique.
C'est-à-dire que tu prends un joueur qui est titulaire à 100%.
Non, mais le discours du staff en interne depuis quelques semaines, c'est pourquoi changer ? Pourquoi lui enlever le capitaine ?
Oui, mais c'est surtout. Non, mais il y a un autre raisonnement qui est plus fort pour moi, c'est de dire est-ce que Olivon est titulaire ou pas ? Parce que si un capitaine, il faut qu'il soit titulaire.
Tu ne peux pas avoir un capitaine remplaçant.
Mais non, c'est impossible.
C'est inimaginable.
Mais c'est inimaginable. Ça n'a jamais été, d'ailleurs.
Et tu imagines que le message que tu envoies à Antoine Dupont, tu lui dis, Antoine, t'as été le meilleur joueur du monde. Ça fait 3 ans que tu marches sur tout le monde, mais finalement, on va t'enlever le capitaine. On t'a pris l'année dernière parce qu'on en avait besoin, mais là, maintenant, on te l'enlève. Non, ça me paraît très compliqué, cette histoire.
Ok, donc a priori, ça devrait donc être officialisé dans les heures, sinon les minutes à venir. Antoine Dupont, sans doute capitaine de ce 15 de France pour la Coupe du Monde, mais avec un Charles Olivon qui revient et qui sera a priori titulaire face à l'Australie. On va passer à la charnière. Alors on a évidemment parlé d'Antoine Dupont. Là, il n'y a aucun suspense, il sera bien en numéro 9. En revanche, en numéro 10, on attend de savoir comment va revenir Romain Ntamack. Mmh. Tu le disais, Jeff, il n'a pas repris... Il n'a pas joué depuis le 11 septembre. Il revient à peine. Est-ce que son état sera suffisant pour en faire un titulaire à la charnière du 15 de
France ? 11 septembre, c'est vrai que ça fait longtemps. Il est monté en puissance à l'entraînement. Pour le match contre La Rochelle, il était 24e homme. C'est-à-dire que s'il y avait eu un problème dans le groupe, il aurait pu rentrer soit sur le banc, soit sur le terrain. Et il s'est entraîné normalement. Et l'objectif de Romain Ntamack depuis quelques semaines, c'est d'être prêt pour ce match. Et c'est sa priorité, c'est d'être opérationnel. Et c'est un signe de confiance de la part du staff de l'avoir repris. Sans doute.
Sans voir de quoi il est capable.
C'est quand même un signe de confiance très très fort.
Bon, alors maintenant, il est dans le groupe. Reste à savoir s'il sera titularisé. Ça va dépendre de son état. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui frappent à la porte.
Il y a quand même de fortes chances.
Pour vous, ce sera Ntamack. S'il ne boite pas, c'est Ntamack qui sera numéro 10.
S'il le prend, c'est pour jouer. Il ne prend pas pour amuser la galerie.
Non, tu peux le prendre.
C'est un message très très fort et c'est une décision qui n'est pas d'autre, les amis. Même si Mathieu Jolibert ne fait pas un très très bon début de saison sur les premiers matchs, il reste sur 2 ou 3 prestations de meilleur standing, et notamment ce week-end contre Clermont-Ferrand où il a des actions de classe. On voit bien qu'il est en train de revenir à son niveau, et ça veut dire que si on met Ntamack titulaire sans jouer, sans avoir joué depuis un mois et demi, on envoie à notre ami Mathieu Jolibert, finalement, toi t'es le numéro 2.
Ouais.
La symbolique, elle est très forte. Je ne vous dis pas qu'Ntamack ne sera pas titulaire. Je vous dis que ce choix du staff, il est
primordial.
Il t'envoie les
signes. Oui, alors tu penses que les entraînements vont être cruciaux, décisifs ?
Non, je pense que c'est peut-être déjà joué. C'est ce qu'on a vu depuis le début de saison. Alors oui, peut-être que Romain doit rassurer tout son monde sur sa capacité physique à être revenu à son meilleur niveau. Et est-ce qu'il est au niveau là aujourd'hui? Maintenant, je ne sais pas si ça se jouera entre l'un et l'autre. Si Romain prouve qu'il est bon, enfin qu'il est au niveau, et le staff peut considérer, mais s'il y a finalement, Romain, il n'a pas joué depuis un mois et demi, Romain Ntamack. Donc, et derrière, tu as Jalibert qui joue tout le temps. Ouais, en termes de confiance et de message pour la concurrence, je ne sais pas. C'est une symbolique très forte pour moi.
Ce sera une symbolique très, très importante, donc décision très importante concernant le numéro 10. D'autant qu'il y a quand même un autre joueur qui se pose là quand même si on sait qu'il devrait plutôt jouer à l'arrière, mais Thomas Ramos qui effectue l'intérim à Toulouse pour remplacer Ntamack, qui est tout simplement énorme en ce moment, Denis.
Oui, énorme, mais Thomas
mais
Ramos...
Il joue en 10 à Toulouse.
Thomas Ramos, il est venu pour jouer arrière, pas pour jouer 10, donc la question ne se pose pas. On le voit avec...
notre ami Bordelais à l'arrière.
Oui, mais ça, tu sais très bien que dans la tête de Fabien, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne vois pas Fabien s'aventurer à jouer les Australiens avec Mathieu Jalibert à l'arrière. Je pense que Thomas Ramos, d'abord, il est buteur hors norme, ouais. Et qu'il ne va pas se priver de prendre un gros buteur face à des nations comme l'Australie ou l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas donner le but à Romain s'il fait jouer Romain en 10 alors après 6 semaines d'absence. Ça me paraît impossible. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je pense
que Romain... Il faut donner à Jalibert.
Oui, non, mais d'accord, mais je pense que Romain va jouer. C'est moi, voilà, dans ma tête, pour moi, c'est clair. Hein, le message est.
Moi aussi, je pense que Romain.
Non, mais à partir du moment où Romain joue, je pense que Thomas Ramos sera titulaire à l'arrière pour être,
pour être le buteur du coup.
Oui. Ouais. Et c'est officiel, Antoine Dupont sera le capitaine.
Voilà, voilà bien, il l'annonce exprès dans, entre les poteaux. Merci,
c'est
monsieur.
Vous, Jeff, comme info.
Ben voilà, c'est officiel, c'est ce que je vous dis. Voilà.
C'est vient de tomber. Ça tombe. Et ce n'est pas une nouvelle de Midi Olympique.
Oui, on l'a écrit il y a 3 semaines.
Ok, donc très bien, on a compris pour vous Dupont et Ntamack à la charnière, à moins que Romain ne soit pas complètement remis. Et on parlera dans un instant du poste d'arrière de cette équipe de France. Ozel, Penaud ne fait pas, ne souffre d'aucune contestation. De l'autre côté, qui pour remplacer Gabin Villière? A priori, on nous dit Moefana, mais il y a quand même des garçons qui font une bonne saison jusqu'à présent, c'est Lebel et Raka. À qui donneriez-vous la priorité pour occuper
Fabien peut être surprenant parfois, même s'il si reste sur sa logique, et Manu a raison sur ce point de vue-là. Mais je vois pas, je vois davantage faire confiance à Moefana. C'est mon sentiment. Après, est-ce que
Lebel... Tu dis Moefana, toi?
Hein?
Tu dis Moefana?
Ouais, ouais. Moi, je dis Moefana.
Ouais, moi aussi, je pense.
Mais après, voilà, Lebel peut jouer les pas les jokers, mais peut très bien titulariser vu les performances qui à Toulouse et puis les dernières performances en équipe de France, il a été bon. Mais dans la tête de Fabien, Moefana, c'est une assurance tout risque, quoi. Voilà, c'est un mec qui est costaud, il passe les bras, il est haut sur le ballon, il est bon. Il y a quand même quelques certitudes chez ce joueur.
Mmh. Manu, toi, t'as pas l'air convaincu.
Je me pose la question pour voir s'il ne faut pas revoir notre ami Raka, comme on va revoir en première ligne le pilier toulonnais. Mais non, j'ai mis Moefana et au nom de la logique, Lebel remplaçant.
D'accord, Moefana, Lebel, mais Raka, effectivement, qui fait une très bonne, ouais, très bonne saison. Mais après, il y a toujours des incertitudes concernant son jeu défensif.
On va vite en savoir plus, parce que dès mercredi, il y a des joueurs qui vont rentrer en club. Et je pense
dès là on saura
si Raka y rentre, il jouera pas. Tu as raison, on va savoir plus mercredi, mais après il y a les entraînements, hein, toujours ces entraînements.
On verra pas mal à l'entraînement déjà, parce que comme ça va aller très très vite et que les joueurs Fabien Galthié va pas attendre mercredi pour choisir les joueurs qui vont partir au club. Donc ça sera demain à l'entraînement, on en saura plus.
Voilà, entraînement capital demain pour savoir qui jouera aux ailes de cette équipe de France. Et puis donc le poste d'arrière, on sait, donc Melvin Jaminet forfait pour cette tournée. Ramos, on en a parlé. Ramos qui en plus présente l'avantage d'être un serial buteur. Donc a priori, c'est lui qui devrait jouer. D'autant qu'il y avait un concurrent peut-être pour le poste de Ramos, c'était Burros, mais lui aussi s'est blessé.
Super, super joueur aussi, Romain Burros, qui est déclaré forfait. Ouais.
Ben, Ramos, il va jouer parce qu'il est excellent aussi dans le jeu. Il ne faut pas le réduire à ses talents de buteur.
Non, bien sûr.
Vu les performances qu'il fait en club aujourd'hui, il joue pour moi toute la saison.
Enfin, ça fait un moment qu'il
joue. Oui, qu'il joue en 10, mais ce garçon est très étonnant, quoi. C'est marrant. Il y a comme un délit comment on appelle ça de
faciès.
Oui, de sale gueule.
De sale gueule, ouais. Bah, c'est marrant. Ce mec,
Oui, mais il présente. Le problème de Ramos, c'est sa polyvalence. Il s'est joué à tous les postes.
Oui, alors on te dit, c'est le meilleur partout. Oui,
il est fantastique pour être remplaçant.
Oui, voilà, c'est ça le problème. Et souvent, ça joue
partout.
Ça joue contre soi. Tu as raison, il est trop polyvalent ce garçon. Non, malheureusement, et quand il joue à Nice, il est très fort, quand il joue à l'arrière, il est très fort. Donc c'est vrai que tu te dis, le mec, il va rentrer dans un collectif et il sera remplacé.
Et puis dès que tu lui mets un concurrent, Manu, il s'amuse justement à montrer qu'il est le plus fort en plus. Hein.
Ouais, rappelez-vous que sur son premier match à Toulouse, quand Jaminet est arrivé, il a eu du mal au pied. Il a eu quelques échecs sur la première ou deuxième journée de championnat, je ne me souviens plus. Et très, très, très rapidement, quand il a remis les choses au point, et il est redevenu très, très efficace face au poteau. Donc oui, c'est un garçon qui, une fois qu'il a la confiance, pèse très, très lourd sur le terrain à chaque fois qu'il joue.
Ok, donc a priori pour vous, Ramos, oui, Akiet, oui. Jeff, il n'y a pas de suspense concernant le poste de numéro 15.
Vous allez voir dans une semaine, ce ne sera pas du tout la même compo.
On verra.
Je ne dirais pas comme Vincent Moscato, Ramos, pas la playa.
Ramos à la playa, ouais. Oh, d'accord.
Voilà.
On a tous compris. Un mot du
Ramos à la playa.
Ah, oui, ça passe bien, ça passe crème, ce genre de choses.
Et tu coupes en montage.
Mais non, on le garde, c'est bon, ça, l'humour de Denis Charvet. Un mot du staff de l'équipe de France qui va connaître quelques évolutions après la Coupe du Monde. On sait que Guézal et donc Labitte ont officialisé leur départ après la Coupe du Monde pour rejoindre le stade français. Quid des autres? Là, on va se tourner vers Jeff, qui évidemment a toutes les infos concernant le staff du 15 de France. Est-ce que ça risque pas un peu cette histoire de mettre un peu le why dans ce staff du 15 de France?
Non, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de risque là-dessus, puisque la remission est claire, ça sera jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, ils basculeront sur le stade français pour les deux. D'ici là, ils vont se donner à fond, et j'ai aucun doute. Et eux, s'ils peuvent partir sur un titre, et ça, c'est clair. En plus, ils ont discuté ce week-end, c'est ce qu'on nous aura
dit. Il y a eu une grande réunion samedi soir.
Ils ont dîné avec le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte.
Tu étais là, Yannick?
Non, mais j'ai rien à foutre là, surtout.
Bah, attends, patron des barbares, quand même. Non, rugby français, quoi.
Non, mais c'est justement des sujets qui ont été abordés pour justement se reconcentrer sur l'événement qui est à venir et qui est la Coupe du Monde. Et tout ça a été
voilà, officialisé avant la tournée. Maintenant, on se concentre sur
l'idée. L'idée, c'était de boucler ce dossier avant la tournée pour être débarrassé, pour pouvoir vraiment pleinement penser à ces trois matchs. C'est leur priorité en ce moment, c'est l'équipe de France pendant les trois semaines à venir.
D'accord, l'épine dans le pied est enlevée. Maintenant,
on la remettra plus tard.
On la remettra un peu plus tard. Et on verra dans quel état se trouve cette équipe de France. Mais on a hâte, évidemment, que cette tournée ne débute. Ce sera donc le 5 novembre au Stade de France face à l'Australie pour ce premier match. Ensuite, l'Afrique du Sud et le Japon. Messieurs, on verra si vos pronostics sont les bons. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. On se parle les potes. Ciao, ciao.